Nous vous suggérons de terminer la visite par la galerie entièrement consacrée à la syphilis, dans ses formes primaires, secondaires et tertiaires. Vous pourrez également voir les moulages de syphilis de la collection Fournier, située sur la galerie supérieure. Cette très importante collection nous donne l'occasion de parler de l'histoire de la syphilis, qui représente un des aspects les plus riches de l'histoire de la dermatologie. L'origine de la syphilis reste encore aujourd'hui le sujet de controverses. Pour certains, elle aurait été présente de tout temps, sous de multiples dénominations, en Orient et en Europe, et ne serait devenue une maladie épidémique qu'à la faveur des mutations sociales et des guerres à la fin du XVe siècle. À côté de cette théorie, une autre explication s'appuie sur les voyages de Christophe Colomb et de ses marins, qui auraient ramené en Europe la syphilis contractée dans le Nouveau Monde. La brutalité et l'extraordinaire rapidité avec laquelle la maladie se répandit dans toute l'Europe, à partir de Naples, à la fin du XVe siècle, viennent à l'appui de cette hypothèse la plus communément admise. Les premiers observateurs comprirent rapidement la contagiosité de la maladie et sa transmission sexuelle, non exclusive mais prédominante. Ils réalisèrent également que le chancre, premier stade de la syphilis, était bien différent des écoulements urétraux connus depuis longtemps. Toutefois, curieusement, cette distinction fut ensuite oubliée et, pour la plupart des médecins, chancre syphilitique, chancre mou et blénorragie furent considérés comme les symptômes d'un seul et même mal vénérien. Il fallut en fait plus d'un siècle pour que la distinction fût faite à nouveau, avant d'être niée par Hunter qui propagea la plus grande confusion dans la connaissance des maladies vénériennes. La clarification vint de Benjamin Bell, médecin écossais de la fin du XVIIIe, qui montra que les symptômes de la syphilis et de la blénorragie étaient distincts et que la blénorragie n'évoluait pas vers la syphilis. Plus tard, on l'a vu, Ricord considéra longtemps le chancre syphilitique et le chancre mou comme les deux versants d'une seule et même maladie. Ce fut Fournier, élève de Ricord, qui fixa les caractères morphologiques du chancre syphilitique avec la plus grande précision. Qu'il me soit permis, écrivait Fournier, d'abord, comme entrée en matière, de rappeler quelle est la caractéristique générale du chancre syphilitique. Cette caractéristique est contenue dans les six attributs suivants, quel que soit d'ailleurs le siège du chancre. Lésions de petite ou de moyenne étendue, toujours bien délimitées, de type érosif, plus souvent qu'ulcéreux. Lésions sans bord, c'est-à-dire sans entamure circonférentielle, et très spécialement sans entamure à pic. Donc lésions se continuant sans ressaut, sans arrête, en d'autres termes soit de plein pied, soit en pente douce avec les téguments sains périphériques. Lésions à surface lisse, égale, unie, tellement égale et tellement unie quelquefois, qu'elle en est comme polie, vernissée. Lésions qui, sans avoir de coloration propre et pathognomonique, ne s'en signalent pas moins le plus souvent par deux teintes bien connues, la teinte grisâtre diphtéroïde dite lard ranci, et plus souvent de teinte rouge de ton muscle disséqué dite teinte chair musculaire. Lésions ayant toujours pour assise, pour base, une induration tégumentaire plus ou moins accentuée, infiltration néoplasique rénitente et dure à des degrés divers, lesquels constituent les modalités diverses de ce qu'on appelle l'induration chancreuse. Enfin, lésions toujours flanquées d'une adénopathie satellite, de caractère aphlegmasique, à ganglions généralement multiples et d'une dureté particulière. Rappelons qu'à l'époque de Fournier, la qualité des descriptions était essentielle en l'absence d'examens sérologiques ou bactériologiques. L'agent de la syphilis, Treponema pallidum, fut mis en évidence en 1905 par Chaudin et Hoffmann. Un an plus tard, Wassermann, utilisant la méthode de fixation du complément inventée par Bordet, mettait au point la première méthode diagnostique sérologique de la syphilis. Concernant les signes cutanés de la syphilis secondaire, Fournier, qu'il faut citer ici à nouveau, indiquait qu'il s'agissait de dermatoses superficielles bénignes d'allure, bénignes de fond et spontanément résolutives, c'est-à-dire qu'elles consistent en des éruptions qui n'affectent les téguments que dans leurs couches les plus extérieures, qui se tiennent pour ainsi dire à fleur de peau, qui manifestement ne constituent que des lésions cutanées sans importance, sans gravité intrinsèque, et des lésions résolutives destinées à disparaître sans altérer les tissus, sans laisser de cicatrices. Ce sont, continuait-il, des dermatoses profuses, disséminées, voire généralisées quelquefois, c'est-à-dire composées par une multitude d'éléments éruptifs qui se répandent sur toutes les régions du corps et qui criblent la peau à la façon d'une rougeole, d'une roséole, d'une variole. Ce sont des syphilites fréquemment, très fréquemment polymorphes, c'est-à-dire composés d'éléments éruptifs d'ordre différent. Ce mélange de formes éruptives différentes constitue ce qu'on appelle en langage dermatologique le polymorphisme. Ce sont enfin des dermatoses anarchiques comme distribution d'éléments éruptifs, c'est-à-dire que leurs éléments sont disséminés au hasard, comme jetés au hasard sur la surface de la peau, sans offrir entre eux une coordination réciproque, sans être assujettis à la moindre discipline éruptive. La syphilis tertiaire, encore appelée tertiarisme, fut tout au long du XIXe siècle considérée comme la grande étape de la syphilis, l'étape néfaste par excellence, celle où se donnent rendez-vous toutes les manifestations importantes et graves de la maladie, c'est-à-dire toutes celles qui contribuent à lui conférer un pronostic si redoutable, écrivait Fournier. Les manifestations cutanées représentaient plus de 50% des manifestations de la syphilis tertiaire. Après la peau, le système nerveux central était le plus fréquemment atteint par la syphilis tertiaire. Sur le plan chronologique, la date d'apparition des accidents tertiaires était considérée comme très variable. Toutefois, c'est la troisième année qui constituait l'année culminante du tertiarisme, l'année terrible pour les malades. Fournier décrivait les caractères généraux communs aux syphilites tertiaires, qui notamment les différenciaient des manifestations secondaires. Le propre des syphilites secondaires, écrivait-il, c'est de consister en des dermatoses superficielles presque à fleur de peau. Inversement, le propre des syphilites tertiaires est de consister en des lésions profondes qui affectent la peau dans son épaisseur. A l'inverse des syphilides secondaires, qui sont le plus souvent polymorphes, les syphilites tertiaires sont des dermatoses monomorphes. Ce sont des syphilides disciplinés comme groupement éruptif. En second lieu, les syphilites tertiaires sont assujettis dans ce groupement à certains dispositifs méthodiques, spéciaux, voulus, témoignant, si je puis ainsi parler, d'un génie éruptif spécial. Ces dispositifs peuvent se ramener schématiquement aux cinq modalités suivantes. Groupement en bouquet, dit encore en coup de plomb, groupement en collier de perles, en bande annulaire, en croissant, en arceau conjugué. À côté de ces différentes formes cliniques, c'est par le thème de l'hérédité syphilitique que les médecins enrichirent le thème de la peur collective qui entoura la syphilis à partir des années 1860. Grâce aux théories sur l'hérédité, les médecins purent en effet montrer que la syphilis atteignait non seulement l'individu, mais encore menaçait la famille, la population et à terme l'espèce entière. En fait, pour la plupart des médecins de la fin du XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle, la syphilis héréditaire s'identifiait à la syphilis congénitale. L'hérédosyphilis était décrite comme une maladie de l'ensemble de l'individu, atteignant tous les organes par un processus, disait-on, atrophique et consomptif, incompatible avec la vie. Cette conception de la syphilis fut responsable d'une véritable anxiété collective, notamment chez les médecins, qui s'efforçaient de montrer le visage de la syphilis dans toutes ses manifestations. Cette volonté explique le grand nombre de moulages de syphilis que vous pouvez voir ici. Le traitement de la syphilis refléta longtemps les incertitudes et les angoisses des médecins. Traité pendant près de 5 siècles par le mercure, puis plus récemment par l'iodure de potassium et le bismuth, ce n'est en fait qu'en 1943, avec l'introduction de la pénicilline, que la syphilis bénéficia d'un traitement enfin efficace, qui fait de la syphilis une maladie aujourd'hui bénigne.